France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Quelques jours après la grâce accordée à Boualem Sansal, emprisonné en Algérie il y a un an exactement pour, je cite, « atteinte à la sûreté nationale », après des propos sur les frontières du pays, ses amis et soutiens se réjouissent de son retour en France prévu dans quelques jours. L'incarcération de l'écrivain l'a placé au cœur des débats pendant toute l'année écoulée. Ses propos polémiques ont été rappelés, ses soutiens embarrassants pointés du doigt. Ceux qui ne l'ont pas assez soutenu, au contraire, ont été vilipendés. Une grande absence de ces débats. Néanmoins, son œuvre littéraire, pour ceux qui la connaissent et l'étudient, il paraît évident qu'elle n'a pas été lue par ses commentateurs. Alors, quelle vision de l'Algérie et notamment de la décennie noire peut-on lire dans les romans de Boualem Sansal? Quelles sont les correspondances entre l'homme médiatique dont il a beaucoup été question et sa littérature? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Lisa Romain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en littérature, vous avez consacré votre thèse à l'œuvre de Boualem Sansal et signé un ouvrage intitulé « Sansal à l'épreuve du réel », un livre qui a paru en janvier aux éditions du Cerf. Vous êtes par ailleurs professeur dans le secondaire, dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Maintenant, il est en Europe. Donc il est dans un espace de liberté, et ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être sa décision. Est-ce qu'il va vouloir revenir en France? Est-ce qu'il va vouloir rester là-bas? On ne sait pas encore sa décision, et on ne sait pas encore, on le saura peut-être dans les heures à venir, quelles sont les conditions qu'ont posées les hiérarques algériens, et notamment le président Tebboune, à sa libération. Mais le président Tebboune a le même âge que Boualem Sansal. Il est lui aussi malade, il allait se faire soigner en Allemagne. Donc on pense qu'il a bien réalisé que c'était encore plus justifié pour Boualem Sansal de se faire soigner que pour lui, qui n'a pas la maladie grave dont est atteint Boualem.
La voix de Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, elle réagissait à l'annonce de sa libération le 12 novembre dernier. Et je le disais, Lisa Romain, depuis son incarcération en Algérie, un an de polémique, 12 mois de controverses sur ses positions politiques, est-ce qu'à votre avis, tous ces commentateurs, tous ces analystes qui ont pris part dans le débat public ont véritablement lu, compris l'œuvre de Boualem Sansal ?
Alors, la première chose qui m'a frappée, d'abord, c'est que finalement, les réactions, elles sont peut-être amplifiées, mais elles n'ont pas changé quand je les compare à celles que j'avais déjà analysées dans ma thèse, puisque je m'étais intéressée à la réception médiatique. C'était une partie de mon objet d'étude que je pouvais pas éviter, quoi.
L'actualité d'alors était déjà constellée de polémiques qui concernaient Boualem Sansal.
Il y en avait, elles étaient moindres, mais il y en avait, et les positions étaient rigoureusement les mêmes. Et quand j'ai relu à la faveur de sa réédition, de son édition par Le Cerf, la thèse, j'ai été frappée par le fait que rien ou presque rien, en fait, n'avait changé. Et les positions des soutiens étaient les mêmes. Alors, à ce moment-là, il s'agissait pas de soutenir de la même façon, mais la position des laudateurs, on va dire, était la même. La position des détracteurs était la même. Les accusations étaient les mêmes. Et donc, à ce moment-là, déjà, j'avais pas l'impression que la littérature était très présente dans ces façons de juger l'écrivain, de le célébrer de la part de ses laudateurs et de l'enfoncer de la part de ses détracteurs. Je reconnaissais pas l'œuvre, en fait, dans ce que je lisais. Je l'ai pas reconnue là non plus. Et c'était d'autant plus ennuyeux qu'effectivement, il aurait suffi sans doute de lire véritablement Sansal pour dissiper un certain nombre de doutes et d'hésitations de la part des gens qui savaient pas trop comment se positionner.
Alors tentons avec vous justement, Lisa Romain, de dissiper une partie de ces doutes et commençons par le début. Le début, c'est peut-être l'Algérie. Il avait peut-être une volonté, Boualem Sansal, c'était de critiquer l'Algérie toujours, mais critiquer l'Algérie depuis l'Algérie elle-même. Expliquez-nous cette démarche, ce positionnement.
Alors, c'est quelqu'un qui a attendu, en fait, pour se positionner. Enfin, qui a attendu pour sortir du silence. Il était haut fonctionnaire. C'est d'ailleurs ce que peuvent lui reprocher encore aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels algériens, c'est qu'il a attendu. Il a commencé à écrire en 96. Il invoque un trop-plein, en fait, une saturation de douleur, de chagrin, d'isolement. Et à partir de 96, il écrit Sermon des barbares. Il le publie en 1999. Et depuis, il ne s'est plus arrêté.
En 96, quel âge a-t-il environ? Il naît à peu près...
Un peu moins de 50 ans.
Un peu après la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, il a 47... il avait 50 ans quand il est vraiment entré dans le circuit littéraire. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est plus arrêté de parler, ça c'est sûr. Alors, c'est effectivement un auteur qui a, pendant des années, choisi de rester en Algérie. Quand on lui pose la question, il disait qu'il voyait pas la chose autrement, tout simplement, enfin que c'était une évidence pour lui. Et puis, quand on regarde aussi les personnages qui sont représentés dans son univers romanesque, on s'aperçoit que tous les personnages qui partent sont des personnages qui sont en situation d'échec, et les romans où les personnages partent sont justement les seuls romans où la fin laisse peu d'espoir, en fait.
Ce qu'il faut aussi préciser tout de suite pour bien comprendre qui est Boualem Sansal et le fond, la raison d'être même sans doute de son œuvre, c'est que c'est un homme, un écrivain d'une génération très particulière, très singulière, un écrivain de la décennie noire. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, effectivement, il a été marginalisé d'une façon qu'il faudrait aussi sans doute dissiper. C'est quelqu'un qui est né donc... quand l'Algérie était encore un département français.
Trois départements français. Une partie de la France et trois départements français.
Alors, oui. Et donc, il était scolarisé en français, francophone d'écriture. Et donc, il était jeune adolescent au moment de l'indépendance, puis après, le temps que ça se passe, dans ce climat d'euphorie, il était un peu une sorte de hippie, avec une vingtaine d'années, dans les années 70, à la fin des années 60, au début des années 70. Et donc, il partageait ça avec ceux de sa génération, d'être dans cette euphorie post-indépendance, d'avoir l'impression que les lendemains allaient chanter, etc. Donc, par son âge, il était francophone, d'écriture. C'est-à-dire que parfois, on entend à ces écrivains-là, on leur demande de se justifier sur leur langue d'écriture. Et en fait, c'est pas un choix. C'est comme ça. Ils écrivent en français, les bilingues sont rares, en fait.
Mais qu'est-ce que cela signifie plus profondément, là aussi, dans, j'allais dire... les thématiques qu'il a choisi d'aborder, la façon avec laquelle il a décidé de les aborder, appartenir à cette génération d'écrivains qui commence à publier durant cette décennie noire.
Alors certains ont commencé avant, mais justement donc les lendemains ont progressivement déchanté. Le régime, on s'est aperçu qu'il se durcissait. La défense des droits de la femme, la défense de la pluralité culturelle, religieuse, identitaire, etc., est devenue de plus en plus réprimée. Et puis ces francophones étaient regardés comme des espèces de scories historiques, quoi, par le pouvoir qui voulait donc installer une identité bien clarifiée avec l'arabisation, la langue officielle. Le but était que la langue officielle devienne l'arabe classique. Voilà, donc ils se sont retrouvés un peu coincés comme ça entre deux périodes rigoureusement antagonistes, quoi, qui étaient celle de la colonisation et celle de l'indépendance. Et donc ils ont pris le parti, enfin ils se sont défendus, ces intellectuels-là, et avec la défense d'idéaux démocratiques et l'impression de travailler donc dans l'intérêt du peuple, dans la défense des opprimés, et ils ont appuyé aussi notamment le peuple, les classes populaires au moment des émeutes d'octobre 88. qui étaient donc des émeutes survenues suite à la hausse du chômage, la hausse des prix, etc. Donc tous ces intellectuels-là, mais sans ça, pas encore à ce moment-là, ont appuyé ces insurrections populaires et ont dénoncé aussi la répression qui en avait été faite et ont contribué donc à la révision de la Constitution, à la démission du président et donc à l'instauration d'un multipartisme. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une génération qui a été, du coup, sidérée quand, à la faveur de ce multipartisme, c'est le parti extrémiste FIS qui s'est imposé sur la scène politique et puis qui a raflé les premières élections communales. Et là, on a vu que, bon, bah, il y avait quand même des pressions dans les mairies et la municipalité FIS qui auguraient rien de bon pour des démocrates. Et puis, ben, quand les élections, le second tour des législatives a été interrompu par l'armée, sont carrément devenus des cibles, en fait. Et donc, des cibles des hommes à abattre, cette génération francophone, démocrate, laïque. Et donc, ben, pour des gens qui avaient la sensation d'œuvrer pour le peuple, qui désiraient œuvrer, qui s'étaient investis pour le peuple, qui avaient pris des risques pour les plus défavorisés, se retrouver, enfin, s'apercevoir qu'une partie des classes populaires soutenait ces appels au meurtre, en fait. C'était une sacrée sidération.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un livre que vous avez mentionné, qui a été transmis, envoyé par la Poste à Gallimard en 1998, qui a paru en 1999, Le Serment des Barbares, un texte lu en direct par Bertie Bourdon.
La semaine fut difficile pour les habitants de Rouïba. C'était la première fois que la foudre islamiste frappait aussi fort leur ville. Jusqu'ici, elle piquait à l'unité, à l'improviste, à la périphérie de petites gens sans relief ni mystère. À chaque bruit, on se sentait nain dans un pays de géants, mais on n'avait pas le temps de se repenser que l'oubli était là. On passait au cimetière par habitude, par lassitude. Du moment que ma tête et mon toit sont épargnés, c'est que ça ne va pas aussi mal qu'on le dit, se disait-on en chemin, avec philosophie et un peu de fièvre. Mais là, les satanés barbus l'avaient fait gros. On ne pouvait que se sentir acculé. Le coup fut terrible, même si tous le guettaient. Or, un malheur ne vient jamais seul dans un pays délaissé. En rejoignant le rang des peuples martyrisés par la religion, Rouïba a vu se resserrer sur son cou l'acier des brigades spéciales antiterroristes. La mention « spéciale » à elle seule fait frémir, l'anodin étant déjà le programme officiel. Objectivement, c'est un bien et un mal, entortillés comme des serpents en colère. Les gens sont tordus autrement. Ils se divisèrent, chacun ne voulant voir qu'un aspect de l'affaire. Ils sont pourtant embarqués dans la même galère et le chemin de celle-ci est bien celui de l'enfer. On le sait, Eva, qu'ils ne consentent aucun effort pour échapper à la subjugation dès lors qu'ils y trouvent motif à complication. Ils ergotent, en supporters chauvins qu'ils sont, mais ils sont loin de savoir où passe la ligne de démarcation entre terrorisme et contre-terrorisme.
On a déjà là, Lisa Romain, peut-être l'essentiel, le cœur même, j'allais dire, de l'œuvre de Boualem Sansal. Trois citations prises sur le vif. La foudre islamiste qui frappe la ville, les satanés barbus, le peuple martyrisé par la religion. C'est d'abord un texte engagé contre l'islamisme, là.
Oui, bien sûr. Ben, c'était eux hein, qui ont assassiné Tahar Jaoud. C'est aussi l'islamisme qui a contraint Rachid Mimouni, qui est le mentor, le collègue, l'ami de Boualem Sansal à l'exil, à une forme de mort. Les proches disent souvent que c'est un suicide à l'alcool, etc. Donc oui, à ce moment-là, l'islamisme est dénoncé, bien sûr, mais aussi le pouvoir, puisque on a l'impression cette génération-là donc dit qu'elle est coincée entre le marteau et l'enclume, en fait, entre le pouvoir, entre turban et casquette, dit Sansal, entre le pouvoir et les intégristes.
Que raconte Boualem Sansal quant à l'identité algérienne, quant à cette construction dont les nationalistes souhaiteraient qu'elle soit une identité unifiée, unique, monolithique? Boualem Sansal, dans son œuvre, raconte tout autre chose.
Boualem Sansal et tous ceux de cette génération, encore une fois, puisque je pense à des gens comme Chouaki, qui tiennent les mêmes discours, réfutent cette identité unique, parce que en tant que francophone, de toute façon, on voit bien le problème. Et parce que ça les relègue en fait dans un hors-temps, et donc c'est vrai que le réflexe, de toute façon, dès Nejmat Khatebi Yassine, il y avait déjà cette volonté-là d'aller explorer l'identité plurielle algérienne, dont un certain nombre de facettes étaient niées par ce que Gilles Magny, l'historien, appelle le catéchisme identitaire du FLN. Donc, Boualem Sansal, là, pour le coup, est loin d'être le seul à avoir souhaité explorer l'histoire algérienne pour pouvoir, justement, en admettre toute la mosaïque, toute la richesse identitaire.
Lorsque Boualem Sansal écrit 2084, La fin du monde, qui paraît en France en 2015, qui a obtenu le prix Goncourt, qui a paru également chez Gallimard, il met en scène son récit dans un monde, d'un pays tout à fait imaginaire, se dit-on a priori, et pourtant, est-ce que malgré cet éloignement, en dépit justement de cette distance de façade, est-ce que Boualem Sansal continue là de nous parler de l'Algérie, parce que l'Algérie demeure son thème principal, fondamental?
2084, moi j'y vois quand même assez nettement l'Algérie, je veux dire, de façon assez transparente, ne serait-ce que pendant toute la réflexion sur la bilanguisation, qui est quand même assez transparente. Tout ce passage où il parle des langues qui circulent en fait en douce, en abyssant. Et puis vous avez un certain nombre d'allusions qui sont plus que claires, comme le habit là qui se serait fait soigner. Alors l'étranger n'est pas censé exister, mais serait où est-ce qu'il est? On le voit pas. Est-ce qu'il est parti peut-être se faire soigner ailleurs, etc. C'est une allusion assez claire à Bouteflika. Enfin, il y a tout un tas d'allusions assez transparentes. Donc pour moi, 2084, c'est clairement l'Algérie, je veux dire, à peine transposée. Je pense à une citation à la fin de Dis-moi le paradis, l'écrivain qui est Boualem Sansal, hein, puisqu'à un moment ses copains lui disent « Ah, t'as écrit L'enfant fou de l'arbre creux », etc. dit « Bon, je continue à leur raconter les histoires de Tariq, qui est le deuxième narrateur de Dis-moi le paradis, et je m'éclate en grossissant. » Je m'éclate en grossissant ce qu'il a raconté. Pour moi, 2084, c'est ça. Il s'éclate en grossissant. De sorte que c'est très étonnant d'avoir réduit ce roman à une sorte de dystopie alarmiste ou racoleuse ou je ne sais quoi, parce que pour moi, c'est l'Algérie et Boualem Sansal qui s'éclate en grossissant.
Je vous cite, Lisa Romain, vous écrivez, en 2013, Boualem Sansal publie l'essai intitulé « Gouverner au nom d'Allah » qui fait dire à Laura Adler, suite à la tuerie de Charlie Hebdo, je cite, « Et on est obligé, hélas, mille fois hélas, de vous donner raison. » Fin de citation. En 2015, continuez-vous d'écrire, la parution de 2084, on en parlait, précède de 2 mois les attentats du 13 novembre. On a l'impression que les publications de Boualem Sansal résonnent aussi fortement, avec vivacité, avec l'actualité française et sa tragédie.
Oui, du coup, ça, on l'a investi d'une espèce de statut de prophète. Effectivement, mais c'est parce que lui avait suivi l'évolution de l'islamisme, donc nous, lui, il y voyait un continuum en fait. Donc il avait prévu ça parce que sans doute c'était prévisible. Oui.
Comment est-ce que vous expliquez qu'une part du débat public français, et notamment une frange conservatrice, trouve dans l'œuvre de Sansal, ou plutôt dans ses interviews, dans ce qu'il dit, affirme autour de son œuvre, comment expliquez-vous que cette frange-là puise dans Boualem Sansal une forme de ressource et y trouve aussi des explications et des moyens d'analyser le monde, selon elle?
Alors, à mon avis, elle le puise pas tant, effectivement, dans l'œuvre de Boualem Sansal que dans ses prises de parole médiatiques. Il s'est retenu de parler pendant longtemps. Il le dit lui-même, j'étais timide, j'étais pusillanime, j'étais dans mon ministère. Et à partir du moment où il s'y est mis, c'est sûr qu'il ne s'est pas arrêté. Et qu'il se refuse. Il ne se met pas de barrière dans ce qu'il dit, quoi. Avec l'idée quand même, je pense que les gens l'ont lu quand même à minima, notamment les essais qui sont quand même accessibles et moins cryptés que certains romans, quoi. Donc, mais non, les gens n'ont pas forcément lu. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent assez vite, dès 2003, justement, dès Dis-moi le paradis, l'écrivain revient et dit, punaise, on me fait parler alors qu'on m'a pas lu, quoi.
Il se plaint que les gens ne l'aient pas lu, et dans le même temps, il cherche aussi ce débat public. Je voudrais vous faire entendre une archive de Boilem Sans Salle, un fragment de la collection À Voix Nue, datant du 17 mars 2016, un ensemble d'entretiens menés par Raphaël Rérol, et Boilem Sans Salle explique justement son goût pour le débat public.
Il doit y avoir des débats, et les débats doivent être audibles. Donc si on parle d'un chat, il faut l'appeler chat. Sinon les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez. Alors en France, en ce moment, on ne nomme plus rien. Des gens se mettent autour d'une table, on ne sait pas pourquoi, sur de quel sujet vous parlez, ben ils vont utiliser un mot pour un autre, donc vous savez pas très bien pourquoi et quand vous les écoutez, vous savez pas qui est qui penche dans quelle direction, parce que il me semble, hein, dans le débat, notamment dans les milieux politiques et ceux qui gravitent autour, les intellectuels et tout ça, on a élagué la moitié du dictionnaire. Voilà, il faut pas prononcer le mot islam, il faut pas prononcer il faut pas exprimer des opinions parce que ça vous catalogue, parce que. Et donc, du coup, tout est coincé.
Comment analysez-vous, Lisa Romain, cet ensemble de déclarations de Boilem Sans Salle?
C'est une émission que j'ai beaucoup écoutée dans le cadre de ma thèse, et c'est effectivement là aussi qu'il dit « je veux parler, et que la parole circule, et je parlerai même aux islamistes s'il le faut ». Et donc, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, de quelqu'un qui veut plus s'arrêter de parler et qui veut plus accepter aucun silence. Voilà ce qu'il disait là sur l'impression que par gêne, on refuse d'employer la moitié du dictionnaire. Donc...
Et comment expliquez-vous, pardonnez-moi, je vous coupe, oui, comment expliquez-vous que dans le même temps, malgré cette volonté affirmée, réaffirmée de vouloir s'exprimer, de vouloir parler à tout le monde, Boilem Sans Salle soit membre d'un comité qui appartient au site d'extrême droite Frontière, et donc qu'il est aussi réalisé dans le cadre de cette revue en ligne Frontière, ses déclarations sur le Sahara occidental, ce lien-là avec Frontière, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est une forme de naïveté? Comment est-ce que vous l'inscrivez là aussi dans sa démarche?
Alors, de la part de quelqu'un qui était prêt à parler à tout le monde et qui voulait faire circuler le débat et qui s'en est jamais caché, ça paraît assez compréhensible.
Il y a une différence tout de même entre s'exprimer dans un média d'extrême droite et faire partie du comité d'experts de ce dit média.
Alors là, peut-être dans la volonté aussi, pourquoi pas d'apporter... de façon vertueuse, d'en contrôler les dérives ou d'essayer d'empêcher les dérives. En tout cas, le propos sur les frontières dont vous parlez, il a été tenu dès le début. Des considérations comme celle-ci, vous en trouvez dans Le Serment des Barbares, vous en trouvez dans Le Fond de l'Arbre Creux, vous en trouvez dans Dis-moi le paradis. Donc ce propos-là sur les frontières, il n'était pas neuf. La volonté de parler à tout le monde et de répondre à toutes les sollicitations, elle n'était pas neuve non plus. Le fait d'intégrer ce comité scientifique, j'imagine que c'était une sollicitation ou une invitation, et qu'il l'a accepté, ce qui me paraît pas contraire à son éthique du débat, du dialogue, et au fait de vouloir aller arpenter tout l'espace. Voilà.
Après, c'est tout de même un point troublant de sa démarche.
C'est ce qui a causé une telle paralysie des soutiens, hein, de la part des gens qui connaissaient pas l'œuvre. Mais enfin, en même temps, si vous lisez, je sais pas, moi, je pense aux entretiens avec Cyril Ni, que je relisais récemment, les essais, il suffit de lire ça pour voir que c'est un homme pondéré, que sa condamnation de la colonisation française, elle est sans équivoque. que sa condamnation des colonies israéliennes aussi, dans les entretiens avec Cyril Nick, elle est sans équivoque. Enfin, je veux dire, les livres sont là. En fait, il a utilisé ses livres comme garde-fous pour pouvoir essayer ensuite d'aller sur le terrain et de faire circuler les idées. Mais ça n'a pas fonctionné puisque les livres ne sont pas toujours ouverts, ou alors même quand ils sont ouverts, on peut lire avec de tels billets que finalement on n'y voit pas ce qui est pourtant là.
Une référence qui revient souvent dans ses propos, c'est également Albert Camus. Pourquoi Camus fait-il figure de référence pour Boualem Sansal en quelques mots ?
Là encore, la référence à Camus, elle est un lieu commun de cette génération-là. Parce que Camus incarne peut-être quelque chose qui aurait pu mieux se passer. Finalement, c'est délicat pour cette génération qui a sens vraiment souhaité que les choses se passent bien, enfin qui étaient ravis de l'indépendance. C'était des jeunes dans ce climat d'euphorie dont je vous parlais. Et puis finalement, ça s'est durci. Alors c'est difficile de désavouer son pays indépendant, et c'est pas la question. Mais en tout cas, il y a quand même une tristesse liée à toute l'histoire dont je vous ai parlé, et qui fait que Camus, ben finalement, en ayant été plus mesuré à ce moment-là, il permettait de se poser certaines questions, et notamment comment on aurait pu imaginer un autre cheminement avec moins d'hostilité.
Merci beaucoup Lisa Romain. Je redonne le titre de votre ouvrage intitulé « Sansal à l'épreuve du réel » qui a paru aux éditions du Cerf. Et puis sur l'application Radio France, je recommande aussi la réécoute de l'émission de la semaine dernière consacrée également à la grâce de Boualem Sansal et intitulée « Comment expliquer le choix d'Alger ?» C'était avec l'historien et sociologue Emmanuel Blanchard. Un grand merci à Bertie Bourdon pour sa lecture, et c'est elle qui avait également pensé cette émission. Et merci à Bruno Barada, Roxane Poulain à la réalisation. C'était Léa Racine.